Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Matin, j'étais au café où je vais régulièrement depuis 20 ans. Comme je le dis souvent, je suis vieux. Quand ça fait 20 ans que tu es au même café, t'es pas mal vieux. Et au moment de payer, c'est Asbed qui était à la caisse. Asbed, c'est le propriétaire du café. Je me souviens plus de ce que je lui ai dit exactement, mais il m'a répondu en français. Désolé, je parle pas français. Et là, sur le coup, j'ai pas trop compris. Tu sais, j'étais dans ma tête. Et parce que j'ai pas compris, parce qu'Asbed parle français. Et avec un prénom comme Asbed, vous aurez compris que son arbre généalogique a pas commencé à pousser en Beauce. Asbed est un peu libanais, un peu arménien, peut-être même un petit peu... peut-être que dans son arbre généalogique, il y a peut-être même une petite branche syrienne. Asbed a mon âge, à peu près 50 ans. Il est arrivé, je dirais, là, si je me souviens bien de son histoire, qu'il m'a raconté à quelques reprises, à l'âge de 25 ans environ. Puis sa première job, ben, tu peux difficilement être plus proche du plancher dans le grand totem social. Il était caissier dans un dépanneur dans une station de métro. Et là, j'étudie qu'on ne peut pas être plus proche du plancher dans le grand totem social. Excusez, je voulais dire qu'il était littéralement sous le plancher, sous la terre, dans une station de métro. Ben, Asbed a fini par acheter le dépanneur. Ensuite, il a acheté de l'immeuble. Puis, il a ouvert le café dont je vous parlais. Et après ça, il a ouvert d'autres cafés. Et là, maintenant, ben, il distribue aussi du café dans des restaurants qui sont pas les siens. Et ce matin, Asbed était, j'allais dire le mot furieux, mais c'est pas ça. C'était le mot qui s'impose, c'est triste. Il était triste contre la CAQ, triste contre les propos du ministre Jean Boulay, ministre de l'Immigration, qui a dit 80% des immigrants s'établissent à Montréal, travaillent pas et parlent pas français. On sait que c'est faux. Ce qui est vrai là-dedans, c'est que oui, il y a une grande majorité d'immigrants qui s'établissent à Montréal et le 80, c'est plus la grande région de Montréal, OK? Asbed parle français, travaille comme un forcené. Ses entreprises font travailler du monde. Ses enfants vont à l'école en français. Ce sont des Québécois qui sont nés ici. Et le sentiment qui l'animait ce matin, c'est encore pas assez. C'est pas assez pour qu'on cesse de faire de la petite politique cheap sur le dos d'immigrants comme lui depuis le début de la campagne. À la CAQ, surtout, ils ont décidé de jouer dans les peurs identitaires. Je reviendrai pas sur tout ce qui s'est dit comme excès dans le parti du premier ministre Legault, en partant du PM lui-même, qui a fait un lien entre immigration et violence. Faut constater que pour la CAQ, quand on parle d'immigration, c'est toujours sous l'angle du problème. Et là, aujourd'hui, je veux parler aux immigrants, à ceux qui sont arrivés il y a 6 mois, 6 ans ou 25 ans. Je sais que vous êtes blessés d'être utilisés comme des épouvantails dans cette campagne électorale. Je sais que ça vous blesse d'être vu simplement et uniquement comme des vulgaires statistiques, considérés uniquement comme des problèmes. Moi, je veux vous dire que vous êtes important. Dans une société, tout le monde fait sa part. Dans une société, des fois, on en prend, puis des fois, on en donne. Puis c'est vrai qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, voilé, vieux, croyant, athée, né ici, pas né ici. Moi, les immigrants que je connais, les immigrants que je côtoie, qu'ils soient citoyens canadiens ou pas encore des citoyens canadiens, pour la plupart, ils travaillent fort. Y a-tu des traînes au flanc? Ouais, y a des traînes au flanc qui sont nés tremblés, catholiques, baptisés, comme moi aussi. Je pense à des chauffeurs de taxi haïtiens qui ont travaillé comme des forcenés pour acheter leur permis de taxi, qui ont travaillé 70 heures par semaine pendant des années pour que leurs enfants aient une meilleure chance, une meilleure enfance que la leur, pour que leurs enfants manquent de rien. C'est ce que souhaitent tous les parents, par ailleurs. Et parlant d'Haïti, je sais pas à quoi ressembleraient nos CHSLD, nos hôpitaux, si les Québécoises d'origine haïtienne n'étaient pas là pour s'occuper de nos malades, de nos vieux, dans tout plein de postes, notamment comme préposés aux bénéficiaires. Et mesdames, je vais vous dire, comme on dit à Port-au-Prince, merci en pile. Je pense à mes coéquipiers, mes entraîneurs, quand j'évoluais dans le soccer il y a très, très longtemps, des Québécois venus de partout, des Antilles, d'Algérie, des anciennes républiques soviétiques, de Hongrie, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, d'Italie. D'Italie, je l'avais dit, mais il y avait beaucoup d'Italiens. Je pense aux femmes du Maghreb qui étaient nombreuses dans le CPE de mon fils quand il était tout petit. Il y en avait des voilées, il y en avait des pas voilées. Je pense aux parents de mon ami Faisal, arrivé de Tunisie. Il y a une vie de ça. Faisal est policier. C'est un Québécois à 100% dans un physique de maghrébin. Son ingéniosité contribue à arrêter des bandits ici. Je pense à un monsieur que j'ai croisé il n'y a pas très longtemps à Saint-Lambert, un livreur. Il écoute le 98.5 matin et soir. Je le salue. Je pense à Mamadou Doukara qu'on a interviewé tantôt, originaire du Mali, qui a choisi le Québec, qui est ici depuis de nombreuses années, qui pense que Canadien n'aura pas une si bonne saison cette année. Je pense à Winnie Yambo, venue du Congo, réfugié politique. On l'a accueilli ici parce qu'elle risquait la mort dans son pays. Des années plus tard, parce qu'elle avait laissé ses deux jumeaux là-bas, ses deux fils sont venus la rejoindre. Je les ai rencontrés il y a quelques années. Winnie est préposée aux bénéficiaires, s'occupe de nos vieux. Ces deux gars qui ont 18 ans, ben, sont de brillants étudiants en sciences. Peut-être qu'ils vont être médecins, peut-être qu'ils vont être ingénieurs. Je sais pas, mais il y a personne qui va me faire croire que ces deux jeunes-là seront pas des Québécois exemplaires qui vont beaucoup donner à la société. J'ai parlé de ces deux jumeaux-là dans une chronique il y a 2 ans exactement. Winnie, leur mère, est pas riche. Et puis, les jumeaux, c'était ça ma chronique. Ils étudiaient sur la table à pique-nique dehors, au froid, à côté de la bibliothèque municipale dans l'est de Montréal. Pourquoi? Pour avoir accès à l'Internet sans fil qu'ils n'avaient pas chez eux, dans le fret. Et écoutez, quand j'ai fait cette chronique-là, il y a des centaines de lecteurs de la presse qui ont contribué à un GoFundMe que je n'avais pas lancé pour financer ces jeunes-là. Quand je pense au Québec, c'est à ces lecteurs-là qui ont contribué à ce GoFundMe pour deux petits étrangers qui sont pas de la couleur de la majorité, mais ils ont été touchés par leur histoire, ils ont été touchés par leur volonté de se tailler une place dans la société, puis ils ont contribué par centaines pour les aider un peu. C'est à ces Québécois-là que je pense quand je pense à l'accueil qu'on fait aux immigrants. Écoutez, je pense aux parents de plein d'amis de mon fils qui sont arrivés ici de partout dans le monde quand je pense aux immigrants. La galaxie des amis de mon fils, c'est pas comme la galaxie de mes amis quand j'étais jeune. C'est beaucoup plus métissé, beaucoup plus multiculturel. Quand je grandissais à Laval, à Fabreville, c'était homogène. On n'était pas contre les immigrants, c'était juste homogène. C'était comme ça. On était tous des Tremblés, baptisés, catholiques, blancs. Et je suis retourné il y a quelques années à mon école primaire à Fabreville. Tout avait changé. S'il y avait quelque chose comme 70 pays représentés dans l'école par les origines nationales, ben, la réalité de mon fils, c'est un peu ça. La réalité de vos enfants qui m'écoutaient, c'est probablement beaucoup ça aussi. Et si ça ne l'est pas, ça va le devenir. Je reviens aux parents des amis de mon fils, des gens qui sont venus d'un peu partout, d'Afrique de l'Ouest, de France, d'Europe aussi, d'Amérique latine, du Maghreb, des gens qui travaillent, qui contribuent, qui donnent à la société, qui reçoivent aussi. Ça, je l'ai dit. Une société, c'est du monde qui contribue. Des fois, on donne et des fois, on reçoit. C'est du bon monde. On dit que ça prend un village pour élever un enfant. Ces gens-là, les parents des amis de mon fils, depuis qu'il est tout petit, hein, je parle pas juste de ceux qui sont dans son entourage aujourd'hui, ben, ils font partie du village qui a pris soin de mon fils, comme j'ai fait partie du village qui a pris soin de leurs enfants à eux. Du monde de partout, du monde qui parle français aussi, qu'il parlait peut-être, mais qu'ils parlent définitivement aujourd'hui. Puis des gens qui veulent juste une chose, ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, qui veulent la paix aussi. L'immense majorité des immigrants qui fuient des climats politiques, sociaux, qui sont toxiques, ils veulent pas reproduire ça ici, généralement, très, très, très généralement. Y a-t-il des problèmes liés à l'immigration? Ben oui, mais il y a pas que des problèmes. Puis c'est mon reproche à l'équipe politique de M. Legault, c'est de toujours parler d'immigration sous l'angle du problème. Il y a des histoires incroyables en immigration, qui nous enrichissent tous. Et je sais que beaucoup de gens nés ailleurs écoutent cette antenne, que ce soit à Montréal ou au Québec. Je sais qu'il y a beaucoup de gens nés ailleurs qui sont heurtés dans cette campagne électorale d'être utilisés comme des punching bags par la CAQ. Je parlais de mon ami Asbed tantôt. Ben, je veux vous dire à ces gens-là qui n'êtes pas nés ici, mais qui avaient choisi le Québec, le discours frileux de M. Legault, c'est pas celui de tous les Québécois, pas en tout. Je vous ai parlé du GoFundMe pour les jumeaux Yambo tantôt. C'est un exemple. Il y en a 1000. Je veux vous dire que vous avez votre place ici. Puis en ces temps, disons, plus gris, je tenais à vous dire ça parce que je sais que c'est tough pour vous de ce temps-là. Et je vous dis ce que j'ai dit à mon ami Asbed, le propriétaire du café. Doutez jamais que le Québec, c'est votre maison. Comme c'est ma maison, moi qui ai eu la chance d'être né ici, mais c'est votre maison, vous, qui avez choisi de venir ici. Doutez jamais que le Québec, c'est votre maison.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
On reste sur le thème de l'immigration parce que j'ai vu un tweet intéressant aujourd'hui d'un monsieur que je connaissais pas et je l'ai contacté pour l'inviter ici. Il s'agit de Mamadou Doukara, le Québécois d'origine malienne, est arrivé ici en janvier 2005. Je vais vous lire son tweet avant de le saluer. Il a envoyé un tweet et il a dit « Le 4 octobre, je suggère à François Legault et les députés de la coalition Avenir Québec d'aller à la rencontre des immigrants. Par exemple, prenez une marche dans le métro de Montréal, en banlieue, dans les régions. Vous allez voir que les immigrants travaillent en S. » Et là, il n'a pas mis le « i » à la fin de sa phrase. Monsieur Doukara, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé. Content d'être avec vous.
Très, très content de vous parler. Écoutez, comment vous avez réagi aux propos de Jean Boulet? Comment vous vous êtes senti?
Ben, je me suis senti comme mon tweet, en fait. C'était vraiment difficile comme journée hier. Et quand je l'ai appris, j'ai dit, OK, bon, encore une autre bourde. Mais en réfléchissant, je me suis rendu compte que c'est plus loin que ça. Donc, c'est venu me chercher, comme on dit en québécois, dans mes tripes. C'est vraiment venu me chercher. Et ça m'a fait penser les sacrifices que les immigrants font depuis que je suis venu ici, qu'est-ce que je fais dans la société québécoise. C'est venu comme me remettre en question de l'apport que la CAQ ne voit pas envers l'immigration.
Parlez-moi un peu de votre vie.
Mais en fait, écoute, tu me donnes l'opportunité, mais je suis quelqu'un quand même assez discret. Écoute, moi, je suis arrivé au Québec. Mon père, il a tout fait pour m'envoyer au Québec à partir du Mali en 2005, comme vous l'avez dit. Moi, il m'a donné mes héritages de son vivant. Okay? Donc, il est décédé il y a 2 ans. Moi, je suis arrivé pour les études au Québec. Donc, à l'UQAM, j'ai eu un permis là-bas et je suis venu, ben, j'ai étudié. Mais quand je suis arrivé ici, les 6 premiers mois, j'habitais chez ma tante à La Salle. Et la première chose que j'ai dit, moi, je veux travailler parce que je veux enlever le poids économique que mon père a fait pendant des années pour m'envoyer ici. Donc, je suis arrivé, ben, j'ai fait mes études. J'ai pris pays, comme on dit souvent. Depuis 2008, je suis avec ma conjointe qui est d'origine québécoise de Joliette, OK? Dans l'Anaudière. Mes deux enfants sont nés ici.
Monsieur Doukara, de Joliette, comme dirait Katia Gagnon.
Exactement comme dirait Katia Gagnon, de Joliette, OK? Donc, moi, je sais pas qu'est-ce que Monsieur Boulet, en disant ça, il cherchait à faire comprendre c'est quoi un Québécois. C'est d'aller en camping à tous les étés. C'est d'acheter la culture québécoise, d'écouter les hauts et les bas de Sophie Paquin, passer devant Saint-Anne-de-la-Pérade et puis dire à sa conjointe, c'est ici que MC Gilles vient. Justement.
Je pense que vous l'êtes pas mal, Québécois, mon cher.
Mais écoute, il y en a des centaines et des milliers, là, OK? Et son discours est venu enlever ce côté positif-là. Les infirmières là, d'origine haïtienne, d'origine africaine, qui ont travaillé comme des fous, là, dans les reportages que la presse a publiés il y a 2 ans, il y a 1 an. Ils ont travaillé à la sueur de leur front. Ils s'en vont après dans les instants de chèque envoyer de l'argent à leur famille. Okay? Comme Boukardiouf, il dit souvent, là, en Afrique, quand on vient ici, on vient pour travailler, pour faire nourrir 10, 15 personnes qui habitent dans la même maison. Donc, c'est un peu injuste de la part du ministre. Donc, moi, j'ai propose, honnêtement, là, c'est une invitation réelle. Okay? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller serrer la main des politiciens, peu importe. J'ai fait de la politique, j'ai étudié en politique. Je les conseille d'aller rencontrer des immigrants, de démontrer qu'il y a de l'ouverture. OK, parce qu'ils brisent des ponts en ce moment. Le 4 octobre, je pense, à moins d'une surprise, ils vont être élus. Mais d'aller à Montréal, d'aller en région, premièrement, je n'habite plus à Montréal, j'ai habité sur le plateau longtemps. J'habite maintenant en campagne, à côté d'un petit village de Hudson, OK, dans l'ouest de l'île. Mm-hmm. Ben, j'aimerais ça qu'ils viennent rencontrer des immigrants qui travaillent, qui veulent participer à la société québécoise, au développement socio-économique du Québec. J'aimerais ça qu'ils fassent ça. Ils vont même avoir intérêt à gagner les immigrants quand ils vont faire ce genre de gestes-là, parce qu'en ce moment, c'est brisé.
Dites-moi, est-ce que vous aviez le choix d'aller ailleurs, M. Ducarat, ou c'était le Québec et aucun autre endroit?
Mais c'est une excellente question, M. Lagacé. OK, moi, mon père est né au début des années 50. OK, mon père, à l'époque, les gens qui sont nés dans les années 1950, ils en allaient en URSS, OK, en Ukraine. Mon père, il est diplômé de Kiev. OK, ils avaient des bourses de l'Union soviétique en Afrique de l'Ouest, OK, comme mes compatriotes sénégalais, burkinabés. Mais nous, on est venus dans les débuts des années 2000, mais nous, on allait soit à deux places. On allait soit en France, ou on allait aux États-Unis, le rêve américain, ou le Canada s'est ouvert à travers les études. Le Canada n'était pas vu comme un endroit où on va aller faire le rêve canadien, avoir de l'argent et venir construire des châteaux en Afrique. Non. Mais moi, c'était pas le choix. En fait, je voulais aller aux États-Unis en premier. Mais moi, je dis, tu sais quoi? J'ai pas eu le visa pour les États-Unis. Mon petit frère est parti aux États-Unis. Mais moi, j'ai eu le visa pour le Canada. J'ai regardé les pour et les contre. Mais j'ai quelqu'un qui vit déjà au Québec, ma tante, qui vivait au Québec depuis l'an 2000, à La Salle. Elle est là, elle peut m'intégrer au Québec avec ses enfants qui étaient là. Moi, j'ai eu un permis pour venir étudier à l'UQAM. On parle français. J'ai la possibilité d'avoir la résidence permanente et la citoyenneté. Ben, j'ai choisi le Québec. J'avais le choix d'aller au Maroc, en France, mais vous savez qu'est-ce qui se passe là-bas. L'extrême droite en France a mis des choses politiques. L'immigration n'est pas l'idéal pour tout le monde.
Là, j'ai une question à vous poser, puis on va tomber dans les vrais enjeux, là. Pensez-vous que le Canadien va faire les séries?
Ah, écoute, c'est mal commencé, par exemple, avec deux défaites. Mais honnêtement, je pense que ça va être un long processus. Je ne crois pas qu'ils vont faire les séries, mais on va avoir une équipe où on sait que dans 2-3 ans, ils vont régulièrement faire les séries.
Monsieur Ducarat, c'est un plaisir de vous parler.
Ben, écoutez, Patrick, rapidement, vraiment, au nom de tous les immigrants, j'ai pris votre opportunité pour parler au nom des immigrants qui travaillent, OK? Je sais qu'il y a des paresseux dans toutes les sociétés, mais au Québec, là, OK, il y a 65% des immigrants qui sont sur le marché du travail versus 63% du reste de la population. Ça, c'est Statistique Canada il y a 30 jours. Donc, je crois que la CAQ a intérêt à faire plus d'ouverture. Merci infiniment.
On se voit au poisson des chenoux, mon cher.
Hey, je vais amener mes enfants l'été prochain, au printemps, là, c'est sûr et certain.
Parfait.
Merci beaucoup, salut.
Ça fait plaisir.
À la prochaine. Mamadou Doukara, ben son tweet m'a interpellé aujourd'hui, je l'ai appelé. Je pensais que c'était une bonne idée, mais je le connaissais pas, j'avais jamais parlé de ma vie. Ben
c'est vraiment une super entrevue.
Parce que oui. Ouais.
Ben oui. Sympathique, radio, je te dis.
Sympathique monsieur. S'il valait au poisson des chenaux, il ferait mieux d'y aller cet hiver par exemple.
Oui, ben
plutôt
bon,
que cet été.
En même temps.
De toute façon, hein. Ouais. Rendu au village, quelqu'un va dire où tu habites.
C'est écrit capitale nationale du poisson des chenaux.
1624. Vous le savez, à Rouyn-Noranda, il y a une fonderie. Et cette fonderie-là emploie beaucoup de gens là-bas, des bons emplois bien payés, mais aussi fait des rejets de produits polluants, comme de l'arsenic, en quantité supérieure aux normes là, provinciales. La fonderie a une sorte de dispense pour polluer davantage. Ça a causé une grosse controverse là-bas. Il y a plus de cancers, il y a plus de maladies chez les enfants, par exemple, là, plus de bronchites, des maladies pulmonaires, des bébés plus petits aussi. Plus léger que dans la moyenne provinciale quand ils viennent au monde. Donc, il y a des impacts, on peut pas le nier. Il y a une mobilisation qui a forcé un plan là de réduction de certains polluants. Et aujourd'hui, François Legault était en campagne à Rouyn-Noranda. Il s'est pincé avec un animateur de la radio de Radio-Canada là-bas qui l'a accusé. Il a accusé l'animateur de colporter des faussetés. On va parler de tout ça avec Dr Frédéric Bonin. Il est urgentologue à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Et il est est aussi membre du comité Impact de Rouyn-Noranda, initiative médicale pour une action contre la toxicité environnementale. Il est l'un des trois signataires médecins d'une lettre qui est envoyée il y a deux jours à M. Legault. Docteur Bonin, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Plaisir. Docteur Bonin, là, juste avant, j'aimerais ça que vous expliquiez en termes clairs, c'est quoi le problème avec la fonderie Horn, là, pour les gens là, qui auraient suivi ça de loin. Là.
En fait, la fonderie est bâtie au cœur de la ville là, pour des raisons historiques. Là-bas, la ville s'est bâtie autour de la mine Noranda initialement. Donc, ils bénéficient, comme vous l'avez expliqué, d'une espèce de dispense pour des raisons historiques de respecter les normes environnementales au Québec. Depuis de nombreuses années, on soupçonne qu'il y a des problèmes de santé qui peuvent être attribués à ça, mais au mois de mai dernier, la santé publique a sorti un rapport dévastateur là, au niveau de la santé locale là, qui montrait des chiffres très alarmants qui nous ont... Ces chiffres-là, là, je pense que vous les avez nommés un petit peu, là, 30% de plus de chances de cancer du poumon, 50% de chances de plus de souffrir d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, là, emphysème ou bronchite chronique, 25% de chances de plus d'avoir un bébé de petit poids, 2 ans d'espérance de vie de moins dans le Rouyn-Noranda urbain, 5 ans d'espérance de vie de moins dans le quartier Notre-Dame. Tout ça nous a alarmés énormément, moi et mes collègues. On a commencé à intervenir. On a écrit une lettre là qui a été signée par une cinquantaine de médecins au mois de juillet, qui a fait beaucoup de bruit. Puis là, ben, on est rendu où on est en ce moment. Nous, on a commencé à s'organiser. Là. Vous avez parlé du comité Impact. On représente plus de 65 médecins à l'heure actuelle où on se parle. Puis nous autres, ce qu'on dit, c'est... faut agir vite, faut agir rapidement, faut agir de façon décisive. On peut pas rester insensible devant ces chiffres-là.
OK, on va écouter, si vous permettez, Dr Bonin, là, un extrait de l'entrevue du premier ministre ce matin à l'émission Des Matins en Or. C'est l'émission de la radio de Radio-Canada à Rouyn-Noranda, animée par David Chabot.
La santé publique dit qu'à 15 nanogrammes, on parle plus de ces risques-là. Donc, je pense qu'il faut dire la vérité à la population. Il faut arrêter d'essayer de tordre les données puis les faits.
OK. Votre réaction à ces propos-là, en particulier sur le 15 nanogrammes du premier ministre, c'est quoi?
En fait, la santé publique, ce qu'elle a dit, c'est lorsque nous atteindrons le 15 nanogrammes et l'atteinte de l'émission des normes d'émission pour tous les autres métaux lourds, et que nous aurons décontaminé les sols, et qu'il y aura des limites quotidiennes, à ce moment-là, ça sera sécuritaire pour les femmes enceintes et les jeunes bébés de Rouyn-Noranda. Par contre, à 15 nanogrammes, il reste encore des risques excessifs de cancer. Mais ce qu'il ne dit pas, puis ce qui est sous-entendu là-dedans, c'est qu'avant de se rendre à ce 15 nanogrammes-là, et on ne parle pas des autres conditions que je vous ai données, on a un plan de 5 ans devant nous. Qu'est-ce qu'on fait durant ces 5 années-là? C'est ça qui est comme...
Parce que 15 nanogrammes. Docteur Bonin, je m'excuse de vous interrompre, si je me trompe pas, pendant les 5 années qu'on donne à la compagnie là pour se mettre aux normes, ben il y a pas de cible annuelle non plus là.
Il y a des cibles annuelles intermédiaires qui sont là. Ils vont réduire un peu là, les cibles au niveau de l'arsenic. Par contre, il n'y a pas de cible là, au niveau des autres métaux. Il n'y a pas de limite quotidienne. Donc, on vit 5 années encore d'un risque excessif. Nous autres, c'est ce qu'on défend. On dit, écoute, nous on n'est pas des excessifs. Là. On dit pas qu'on faut fermer la fonderie. Ce qu'on dit, c'est qu'on doit viser 3 nanogrammes en dedans de 5 ans. Puis qu'on doit atteindre le 15 nanogrammes très rapidement avec les autres critères qui ont été mis par la santé publique.
OK, on va écouter un deuxième extrait de l'entrevue de M. Legault là, au micro de Radio-Canada ce matin.
Vous parlez de l'arsenic, on a parlé du 15 nanogrammes en parlant de seuil où c'est peut-être davantage sécuritaire.
La santé publique dit pas davantage acceptable.
Parce qu'il y a des études...
Non, mais c'est parce que là, M. Chabot, vous dites des choses qui sont fausses.
Non, mais il y a des médecins de Rouyn-Noranda qui sont pas d'accord avec vous.
Ouais.
Ils sont nombreux, d'ailleurs, ils sont plusieurs à avoir signé cette lettre.
Mais il y a beaucoup de citoyens qui sont pas d'accord avec les médecins. Ce que dit la santé publique, c'est que c'est un niveau acceptable, 15 nanogrammes. Donc, faut dire la vérité, M. Chabot. Vous venez de dire davantage acceptable. Non. C'est faux ce que vous venez de dire, M. Chabot.
Bon. Docteur Bonin, est-ce que le PM dit la vérité dans cet extrait?
Écoutez, on va dire qu'il tord la vérité. Là. Quand il accuse les gens de tordre les chiffres, il tord la vérité. La norme acceptable au Québec, c'est 3 nanogrammes. Je veux dire, c'est ça qui est demandé partout. Donc, effectivement, 15 nanogrammes est plus acceptable dans le sens où il n'y a pas de risque à court terme là, pour les femmes enceintes, les bébés, comme on discutait tout à l'heure. Mais 15 nanogrammes reste avec certains dangers. Sinon, ce serait la norme au Québec partout. Là, je veux dire, il faut être conséquent aussi.
Monsieur Legault pose le problème là, de façon... il est dans le blanc ou noir. Là. C'est-à-dire, où... on s'accommode du plan actuel ou on ferme la fonderie. Est-ce que c'est-tu trop binaire comme dilemme ou il y a d'autres options?
C'est effectivement très binaire, très manichéen. Là, je sais. Nous, ce qu'on demande, c'est pas la fermeture de la fonderie comme on discutait tout à l'heure. C'est le respect des normes. Puis nous autres, on pense qu'il y a une voie en ces deux-là. Là, je vais sortir un peu de mon expertise. Vous me direz, je suis pas métallurgiste, puis vous avez raison. Mais il y a eu beaucoup de données qui sont sorties les dernières années, des derniers mois. Il y a des ingénieurs qui ont dit, écoute, il y a possibilité de faire un pré-traitement au niveau des minéraux qui sont là, qui pourraient enlever environ 90% de l'arsenic. Ça n'a pas été retenu. On sait que la fonderie Horn, c'est environ... Les intrants de la fonderie, là, c'est presque plus du minéral qui vient de mine. C'est beaucoup des produits complexes, des produits bon, de recyclage, de produits électroniques, mais aussi des bouts usés de certaines villes, des résidus de certains autres trucs. Puis il y a une portion... faible de ces résidus-là, on parle d'environ 5 % là, dépendant des années, qui contient pratiquement le 2/3 de l'arsenic. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est en attendant que vous ayez développé votre usine ultra-moderne là, qui va pouvoir traiter mieux, est-ce qu'il est possible d'enlever ces intrants-là qui représentent seulement 5 % du tonnage que vous faites, mais qui représentent les 2/3 de l'arsenic émis? Est-ce que c'est possible, ça? Puis ça, c'est comme si c'était balayé sous le tapis. Ça demanderait à la Glencore de faire un effort financier. Mais pour nous, ça représenterait quelque chose de majeur au niveau de la santé des citoyens. D'autres, on pense qu'il y a une voie mitoyenne qui est possible.
OK. En terminant, le PM dit que c'est aux gens de Rouyn-Noranda de décider. Ça va être quoi le forum pour décider? Est-ce que la prochaine élection, c'est une sorte de référendum? Si la CAQ est élue, ceux qui chialaient comme vous, taisez-vous?
Ben, je trouve ça très manichéen encore là, de dire, écoute, on va mettre ça entre les mains de la population. Puis, tu sais, les gens peuvent avoir beaucoup de raisons pour voter pour un parti ou pour un autre. Moi, j'ai apprécié la gestion de la pandémie par le premier ministre. Je trouve que M. Dubé, c'est un excellent ministre de la Santé. Je suis pas d'accord avec ça. C'est quoi qui va faire que je vais voter pour ça ou l'autre? L'autre chose qu'il faut pas négliger, tu sais, les travailleurs à la fonderie, c'est une petite communauté ici. Moi, j'ai des amis qui travaillent à la fonderie, j'ai des connaissances, les gens ont de la famille qui travaillent là. Puis là, tout ça nous oppose. Tout ça nous fait un climat un peu de tension en ville entre les gens. Il y a des gens qui prennent ça personnel, qui prennent ça émotivement. Est-ce qu'on va vraiment se rendre à un référendum, comme il est suggéré aujourd'hui, pour déchirer encore plus la population? Comment qu'on va faire pour recoller les morceaux de ça? Tu sais, il y a une décision qui me semble politique. Tu sais, M. Legault est capable de prendre des décisions politiques. Il nous l'a démontré dans le passé. Pourquoi il prend pas ce qu'on lui demande au nom du comité Impact? On représente quand même 65 médecins. C'est pas banal. Puis on est l'appui du Collège des médecins. Ce qu'on lui demande, c'est de prendre une décision responsable pour la santé de sa population, pour la santé des Rouyn-Norandiers, d'être exigeant avec la fonderie. Il est capable d'être exigeant. On est capable de faire mieux que ça.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Bonne journée. C'était Dr. Frédéric Bonin, urgentologue à l'hôpital de Rouyn-Noranda.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
À 7h, d'habitude, MC nous fait un petit numéro comique. Pas de comique aujourd'hui.
Non, j'ai décidé, toi, tu as rendu hommage aux nouveaux arrivants et j'écoute, j'appuyais tout ce que tu disais. D'ailleurs, je trouve que nous, les Québécois, on se révolte pas assez. Les nouveaux immigrants arrivants se révoltent, mais nous, on devrait se révolter, nous aussi, ce qu'Elmis a dit. J'ai décidé moi aussi d'aller dans une autre table, mais cette fois-ci de rendre hommage à José. Là, vous allez me dire, oui, mais tu parles d'une personne en particulier. Vous allez comprendre. J'ai pas demandé la permission en passant de lui rendre hommage à la radio parce que je suis sûr qu'elle m'aurait dit non. Fait que je vous fais une petite mise en situation. À Montréal, José habite à quatre portes de chez nous. Elle est dans la trentaine, elle fait sa vie. Puis il y avait avec d'autres résidents. José, c'est quelqu'un que j'appellerais différent. Parce que j'aime pas les autres mots. Tu sais, les mots qu'on utilise dans la société pour cataloguer certains types d'individus.
Elle a des défis.
Voilà. Donc pour moi, José, c'est ma voisine. Donc je vous explique. Tous les matins, moi, là, je prends mon café devant ma porte. Puis j'entends... Bouh! Là, je suis comme... C'est José. Elle se cache en arrière de l'arbre devant chez nous, puis elle me fait faire un saut. Puis là, elle me dit, tu m'avais pas vu, hein? Fait que là, elle part à rire, puis moi aussi, parce que je trouve ça comique. Fait que je dis, salut José, ça va? Puis tous les jours, elle me dit, salut mon taquin. Elle m'appelle son taquin parce que moi, j'aime ça faire des jokes, puis José, elle aime ça rire. Fait que être un bon public, je fais des jokes plates, je me lève, puis elle trouve ça toujours drôle. T'sais, puis quand elle rit, elle se cache la face avec sa main, parce qu'elle trouve pas mal tout assez drôle dans la vie, mais on dirait que des fois, elle a honte que le monde voit qu'elle trouve donc ça drôle, la vie. Fait que j'ai compris que, comme José me parle tous les matins, puis que j'y parle tous les matins, il y a pas ben de monde qui parle à José. Le monde, là, la différence, ben ils savent pas trop quoi faire avec ça. T'sais, c'est pas que le monde est pas fin, mais ils se disent de quoi je vais parler, comment je fais ça. Regarde, je vais te donner le truc, là, toi qui m'écoutes. Peu importe avec qui, tu parles normalement. Puis ça, avec n'importe qui. Tu parles pas lentement, tu parles pas en bébé. Tu parles normalement. Fait que le monde, ils savent pas ce qui manque parce que parler avec José, là, c'est le fun. José, là, elle a zéro malice. Rien. Pas de méchanceté. Fait que tu lui demandes le matin, comment tu vas, José? Bien. Tous les jours. Bien. Après, tu lui demandes, à quoi ça va ressembler ta journée, José? Elle répond, travailler. Ah oui, parce que tous les matins, José, ça va prendre l'autobus. Avec sa passe dans le cou. Parce qu'elle a perdu l'été passé, puis elle veut plus la reperdre. Fait qu'elle s'en va travailler. Parce que là, vous le savez, on a une pénurie de main d'œuvre. Puis, José, elle veut aider les autres, elle veut s'impliquer dans la société, puis ça l'occupe, puis pour être franc, elle me l'a dit l'autre jour, ça me fait sortir de ma résidence. T'sais. Fait qu'elle aime ça travailler, même si elle dit, c'est stressant. Fait que j'ai demandé, qu'est-ce qui est stressant? Elle dit, prendre l'autobus. J'aime pas ça, prendre l'autobus pour y aller. Qu'est-ce qu'elle fait, José? Elle travaille dans un CPE à l'autre bout de la ville. Elle est assistante. Fait que, qu'est-ce que ça fait une assistante dans un CPE? Ben, ça coupe les légumes, ça coupe les fruits, ça lave les jouets quand les kids sont dehors pour la récréation, ça prépare le dîner avec la cuisinière. En gros, ça aide. Si quelqu'un a besoin d'aide dans le CPE, ben, José est là pour aider. Fait qu'elle fait ça tous les jours, de 9h à 15h. Puis moi, je la vois vers 8h15, 8h30, quand je prends mon café dehors. Fait que j'ai demandé, cette semaine, tu trouves-tu ça dur, José? Elle répond « bof ». Elle dit « c'est surtout qu'il faut que je prenne l'autobus ». Fait que, j'ai dit « ben ok, c'est si dur que ça ». Ben, il y a beaucoup de monde, qu'elle dit. Ok, mais elle aime pas ça, José, quand je m'intéresse à elle, parce que José s'intéresse aux autres. Fait qu'elle revient toujours à moi, tu sais. Elle veut toujours savoir « pis toi ». Fait qu'elle me dit « hey, tu vas-tu être à la radio tantôt ?» Elle me demande ça. Je dis, oui, José, je vais être à la radio tantôt, mais c'est un secret entre toi puis moi, OK? Fait que, chut, dis-le pas. Là, il y a un petit silence, puis elle part à rire. Elle dit, t'es un taquin, toi. T'es mon taquin. Je dis, oui, c'est ma job. Puis là, j'ai osé y demander cette semaine une question plus personnelle. J'ai dit, José, tu sais que t'es importante. Elle m'a dit, comment ça? Je comprends pas ce que tu veux dire. J'ai dit, t'aides nos jeunes, tu travailles dans un CPE, t'es importante, José. Ils te le disent-tu à ta job? Que t'es importante. Là, après un petit bout, le silence a été pas mal plus long. Puis elle m'a dit, je comprends pas ta question. Fait que je lui ai dit, hey, José, c'est pas grave si tu comprends pas ma question. Parce que aujourd'hui, c'est une belle journée, comme celle d'hier, puis du fun à ta job. Elle m'a souri, elle est allée prendre son autobus, puis comme à chaque fois, elle me fait, salut! Puis elle part. À cette heure, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que nos vies à nous autres, là, les gens qu'on appelle normaux, entre guillemets, ben, c'est le stress au travail, être pris dans le trafic, ce que vous vivez en ce moment, la virulence des réseaux sociaux, des gens fâchés, l'agressivité parce qu'on est en post-pandémie. On se donne pas de break, on a le lunch des enfants, on se couche tard, on se lève de bonne heure, puis on a mille problèmes. Mais on a une chance dans la vie parce qu'il y a des José dans la vie. Puis moi, dans ma vie à moi, ben, il y a une Josée. Il y a la Josée. Parce que Josée, elle me ramène sur le plancher des vaches tous les matins. Elle me replonge dans le moment présent. Tu sais, il y a des matins où je file pas, là, que je suis comme, ah, cette semaine, ça a été tough.
T'es, ben t'es du, moins taquin.
Il y a bien du monde qui sont sur les réseaux sociaux après moi. Ça, mais Josée, elle va passer. Puis Josée, elle va être de bonne humeur. Puis on va se dire allô. On va jaser un peu. Puis on va rire. Parce que Josée, là, c'est une des personnes humaines que j'aime le plus. Parce que Josée, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas de méchanceté. Ça n'existe pas, la méchanceté. Je sais que pour du monde, la différence, là, ils appellent ça un handicap. Mais moi, je répondrais à ces gens-là. Hey, c'est un maudit bel handicap de naître puis de vivre avec zéro malice, avec zéro méchanceté toute ta vie. Si ça, c'est un handicap, c'est pas pire comme handicap. Fait que, je vous invite à trouver votre Josée, à oser parler aux gens différents, parce que ça va vous donner confiance en la race humaine, puis des fois, je t'avoue que j'ai pas toujours confiance en la race humaine. Puis s'il y avait juste des Josées sur la Terre, là, ben, il y aurait plus de haine, il y aurait plus de guerre, il y aurait plus de chicane. En résumé, là, je nous vois souvent penser, puis souvent par nos attitudes puis nos commentaires, que le monde comme Josée, ben, c'est des humains moins importants que les autres. Fait que je fais un appel aujourd'hui. C'est exactement le contraire. Si toi, t'es différent, t'es quelqu'un d'exceptionnel. Puis je veux qu'on vous défende. Parce que le monde comme Josée, vous êtes pas mal plus utile au monde que vous pensez. Pas mal plus utile que des post-doctorants, des philosophes, des bien-pensants. Parce que Josée, elle a son intelligence. C'est quoi son intelligence? L'intelligence émotive. Puis c'est toi aussi qui m'écoutes, là, ben, t'es différent. Pis on a besoin de toi parce que pas grand monde te le dit, mais moi, je te le dis, t'es important. Parce que la gentillesse... Puis l'absence de mal dans la société aujourd'hui, ça fait du bien. Tu nous rends heureux, puis tu nous reconnectes aux vraies valeurs. Fait qu'en finissant, vous allez me permettre de m'adresser directement à Josée, parce que je sais que demain matin, tu vas dire, pourquoi t'as parlé de moi à la radio? Ben Josée, on se voit demain matin, on va prendre un café devant chez nous, puis tu vas te cacher derrière l'arbre, puis tu vas me faire « Bouh! » Puis même si je t'ai vu, je vais faire un grand rire. Puis tu vas me demander « Tu m'as-tu vu? » Non, Josée, tu m'as encore surpris un matin. Puis là, on va faire une courbe de farce. Puis je vais lui dire, vas-tu passer une belle journée, ma Josée? Elle dit, oui, je m'en vais travailler. Ça va être le fun? Oui. Fait que je t'avoue que j'ai besoin de toi parce qu'il y a des jours plus tough, mais du monde comme toi, c'est important. Tu me réconcilies un petit peu avec l'humanité.
Bien dit, MC.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.